Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, on va lire des versets 12 à 21, ce sont à la page 803 dans les Bibles sur vos tables. Voilà, 2 Pierre, chapitre 1, on commence au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'exposé déjeuner. Ça fait très plaisir de vous voir. Une des expériences les plus bizarres que j'ai eues quand je vivais à Paris m'est arrivée alors que je prenais le RER. J'étais dans une rame du RER B, ligne très fiable, comme vous le savez si vous connaissez un petit peu Paris, et entre les gares de Châtelet-les-Halles et la gare du Nord, le train s'arrête. Alors, on attend 5 minutes, on ne bouge pas. 10 minutes. Suite à un problème technique, le trafic est momentanément interrompu sur la ligne B du RER. Un quart d'heure, toujours pas parti. Et puis après ce qui m'a paru comme une éternité, on entend le conducteur du train dans le haut-parleur. Monsieur, dame, veuillez nous excuser pour l'attente. Le train est bloqué et vous allez devoir descendre sur les rails et continuer à pied jusqu'à la prochaine gare. Super, la RATP. Alors, je suis descendu du train et j'ai marché dans le tunnel jusqu'au quai de la gare du Nord. Si vous ne connaissez pas bien la ville de Paris et vous aimeriez la visiter, est-ce que je peux plutôt vous recommander la Tour Eiffel ou le musée du Louvre comme activité touristique? Parce que se retrouver dans un tunnel obscur, sans savoir pendant combien de temps on va devoir marcher, ce n'est pas spécialement agréable. Et pourtant, c'était un petit peu ça, la situation des gens à qui Pierre écrit cette lettre. Vous voyez, ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Ils avaient reçu de lui des promesses glorieuses. Des promesses que Dieu offre à toute personne qui met sa confiance en Jésus. Peu importe qui on est, peu importe son arrière-plan, peu importe la vie qu'on a menée. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est avoir l'assurance d'un avenir glorieux avec lui au jour où il reviendra. Mais le problème pour les premiers destinataires de cette lettre, comme pour nous d'ailleurs, c'est que ce jour du retour de Jésus n'était pas encore arrivé. Et les personnes qui leur avaient annoncé ces promesses, les gens qui avaient côtoyé Jésus-Christ pendant sa vie sur terre, eux, ne sont pas très loin de la mort. C'est le cas de Pierre, un des plus proches disciples de Jésus. Au moment où il écrit cette lettre, il pense qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et il est inquiet, parce que des personnes qu'il désigne sans hésiter comme des faux enseignants commencent à revenir sur des aspects centraux de la foi chrétienne. Et notamment, ils mettent en doute l'espérance même à laquelle les chrétiens sont attachés, le retour de Jésus dans la gloire. Alors, au moment où Pierre écrit, la question est la suivante. Comment est-ce que ces jeunes chrétiens vont tenir bon après sa mort? Ils entrent dans un tunnel très obscur. Il y a de la lumière au bout, mais est-ce qu'ils vont tenir le temps du voyage? Donc Pierre leur écrit cette lettre pour les rassurer que même après sa mort, ils auront en fait tout ce qu'il leur faudra pour arriver à bon port. Lui ne sera plus là. Il y aura des moments difficiles, mais ils auront tout ce qu'il faut pour tenir. Et 2000 ans plus tard, est-ce qu'on n'est pas confronté au même problème? Jésus n'est pas revenu. Le discours ambiant présente la foi chrétienne comme basée sur des fables. On peut se demander, est-ce que je vais arriver à tenir? Pierre écrit pour nous rassurer qu'on a tout ce qu'il faut pour arriver au bout du tunnel. D'où mon premier point. N'oubliez pas d'utiliser votre kit de survie. Comme tous les Parisiens, ou peut-être plutôt comme tous les étudiants Erasmus qui vont à Paris, je n'ai évidemment pas raté l'occasion de descendre dans les catacombes. Et une des plus grandes craintes que j'ai eues quand j'ai exploré les catacombes était d'épuiser les piles de ma lampe torche et de me retrouver tout seul dans le noir avec l'eau qui monte jusqu'aux genoux. Encore une fois, Tour Eiffel, Musée du Louvre, c'est beaucoup mieux. Mais ça aurait été très bête. Mais ce qui aurait été encore plus bête, ça aurait été de me retrouver tout seul dans le noir et d'oublier que dans mon sac, j'avais un kit de survie avec des piles supplémentaires et un plan détaillé des catacombes. Et de la même manière, Pierre veut rappeler à ces chrétiens que Dieu lui-même leur a donné un kit de survie. Je vous propose de lire le verset 3 du premier chapitre. Verset 3, Pierre dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Quel est le kit de survie que Dieu nous a donné? Eh bien, c'est notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Si vous découvrez la foi chrétienne, ça pourra peut-être vous étonner d'apprendre qu'on parle en termes d'une relation avec Jésus. Peut-être que jusqu'ici, vous êtes toujours représenté le christianisme comme fait de règles, de rituels, de rites bizarres. Mais d'après Pierre, il s'agit d'une relation. Une relation avec une personne, Jésus-Christ. Et c'est cette relation qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour tenir bon. Allez dans une librairie chrétienne et vous trouverez des tas de livres sur comment vivre et avancer dans la vie chrétienne. Certains de ces livres sont utiles, d'autres moins. Mais d'après Pierre, si on connaît Jésus-Christ, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour traverser le tunnel. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire et à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Le message de Pierre est simple. Vous avez votre kit de survie, utilisez-le. Mettez le paquet sur votre relation avec Jésus. Faites-en votre priorité. Et les gens à qui Pierre écrivait faisaient déjà ça. C'est ce qu'on voit au verset 12. Je vous propose de le lire. Pierre dit ceci. « Je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Pierre écrit non pas pour leur annoncer des choses nouvelles, mais plutôt de leur rappeler de ne pas perdre les bonnes habitudes qu'ils ont prises, de ne pas lever le pied. Pierre sait qu'ils vont bientôt entrer dans un tunnel très obscur sans qu'il soit là pour les encourager. Moi, quand j'ai exploré les catacombes, j'avais un guide, un copain qui se disait cataphile. Il passait beaucoup de temps dans les catacombes pour une raison qui me reste vraiment inconnu. Mais imaginons que je m'étais retrouvé séparé de lui. C'est une chose de savoir qu'on a un kit de survie dans son sac pendant que le guide est avec nous. Si, quand il n'est plus là, on panique et on oublie tout ce qu'on a à portée de main, ça ne sert pas à grand chose. Ça aurait été la catastrophe. Et c'est la même chose ici. Pierre dit « Je vais partir ». N'oubliez pas d'utiliser votre kit de survie. Je ne sais pas ce que, si vous vous souvenez des derniers conseils que vous ont fait vos parents avant que vous arriviez pour vous installer à Londres. Surtout, n'oublie pas ton parapluie, Désiré. Surtout, évite la nourriture. On demande aux Français de préparer à manger pour ce moment, pas que. Surtout, n'oublie pas de regarder d'abord à droite, puis à gauche, quand tu traverses la route. Je ne serai pas là pour te le redire. Quel est le rappel que Pierre fait à ses chrétiens avant qu'ils meurent? Mettez le paquet sur votre relation avec Jésus. Continuez à grandir. Et si nous aussi, on avait besoin de ce genre de rappel, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être tendance à devenir un peu paresseux dans la relation personnelle avec le Seigneur. On devient préoccupé par d'autres choses, la carrière, les études, la vie sociale. On se dit, ça va, je fais partie d'une grande église comme Sainte-Hélène, qu'est-ce qui peut m'arriver? Mais n'oublions pas qu'on traverse un tunnel obscur. Les dangers sont nombreux et pour relever le défi, il faut être suffisamment équipé. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La lumière au bout du tunnel, un fait, pas une fable. Je ne sais pas si vous avez vu un de ces films d'action où un groupe de personnes se retrouve bloqué quelque part, sous terre, dans l'espace, sous la mer, c'est pareil. Et ils doivent trouver une issue. Et généralement, l'issue est totalement improbable. Et dans ces films-là, vous avez toujours un personnage sceptique. D'ailleurs, c'est généralement celui qui meurt en premier. Un personnage qui va dire que ce n'est pas la peine de chercher l'issue. Autant renoncer. C'est celui qui va dire que si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'était un peu ça le discours des faux enseignants qu'on a mentionné tout à l'heure. Ils disaient quelque chose comme ceci. La lumière au bout du tunnel dont ce Pierre vous a parlé, c'est un mythe. Il vous a dit que Jésus va revenir? Où est-ce qu'il est? On dirait que Pierre vous a raconté des histoires. Ce sont tout simplement des fables. Et c'est une accusation que certains ont faite aux chrétiens. Vous croyez à des mythes. Sur votre canevas, vous trouverez une citation du philosophe Michel Onfray qui va dans ce sens. Je vous la lis. Comme si la déchristianisation de la Révolution française ou les acquis libertaires de mai 68 n'avaient jamais eu lieu, nous nous retrouvons avec un nombre considérable de personnes qui sacrifient aux fables, aux mythes, aux histoires pour les enfants. La vie après la mort, le jugement de Dieu, le paradis et l'enfer, l'irrationnel aux commandes. Alors, il se peut que vous soyez d'accord avec cette citation de Michel Onfray. Et si c'est le cas, permettez-moi de vous dire que vos idées n'ont rien de nouveau. Déjà au premier siècle, seulement quelques décennies après que Jésus a marché sur cette terre, certains faisaient déjà passer l'annonce de son retour pour une fable. Ce n'est pas juste un discours moderne, il est presque aussi vieux que la foi chrétienne elle-même. Et Pierre sait que c'est un discours que ses lecteurs vont entendre. Pierre vous a dit de vous focaliser sur le retour de Jésus-Christ? Vous êtes fait avoir. Alors Pierre veut les rassurer qu'ils ont des raisons solides de persévérer. Et en fait, les raisons qu'il donne sont très simples. En gros, son argument, c'est le suivant. On sait que Jésus va revenir en raison de ce qu'on a vu de nos propres yeux et de ce qu'on a entendu de nos propres oreilles. Je vous propose de regarder les versets 16 à 18. Pierre dit ceci. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Autrement dit, on n'a pas inventé des histoires, on n'a pas suivi des mythes. Le message qu'on vous a transmis, c'est du témoignage oculaire, c'est ce qu'on a vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles. Pierre décrit le moment de ce qu'on appelle la transfiguration. C'est un épisode qu'on trouve dans les évangiles, Marc chapitre 9 par exemple, ce moment où Jésus Pierre et deux autres disciples, Jean et Jacques, montent au sommet d'une montagne. Et là, l'apparence de Jésus est transformée devant leurs yeux. Dans son évangile, Marc nous dit que les vêtements de Jésus sont devenus resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Et ce changement d'aspect est très fortement connoté. Dans l'imagerie de l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même dont les vêtements sont décrits comme étant d'une blancheur éclatante. Et ensuite, une nuée descend sur la montagne et on entend une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Sur le moment, Pierre ne comprend pas ce qu'il voit. Et en fait, on voit dans les évangiles qu'à ce moment-là, il fait des remarques totalement à côté de la plaque. Et ce n'est que plus tard qu'il commence à tirer les implications de ce qu'il a vu. Et il comprend que cet événement est comme une fenêtre ouverte sur l'avenir. Il donne un avant-goût de la gloire future de Jésus. C'est un peu comme la bande-annonce d'un film. Certains ont peut-être vu les bandes-annonces pour le nouveau film Star Wars, qui sort à la fin de l'année. Elles ne durent même pas 2 minutes, mais on en voit assez pour avoir une petite idée de ce dont il s'agira dans le film. On voit des batailles au sabre laser, on voit des Stormtroopers, on voit même Chewbacca, et ça a l'air vraiment pas mal. En regardant la bande-annonce, on a un aperçu de ce qui va venir. Le parallèle est loin d'être parfait parce que Pierre a vu bien plus qu'une bande-annonce. Il a vu Jésus resplendir de gloire. Il a entendu la voix de Dieu. Et Jésus lui a dit que cet événement anticipait sa gloire future. Il donnait un avant-goût du moment où, plein de gloire, Jésus reviendra pour régner sur l'univers entier. Et donc Pierre peut dire, le retour de Jésus, la lumière au bout du tunnel, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires pour des enfants. Ça repose sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai entendu. Pierre a eu, ne serait-ce que très brièvement, un petit aperçu avant l'heure de la lumière au bout du tunnel. Et il nous dit tout cela pour nous rassurer qu'on ne perd pas notre temps si on suit Jésus. Parce que ce qu'on a reçu de sa part et de la part des autres auteurs du Nouveau Testament repose sur une fondation sûre et solide. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au fait que les écrits du Nouveau Testament reposent sur du témoignage oculaire. Pour moi, c'est quelque chose qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. Prenez un des évangiles et vous verrez que les auteurs insistent sur des détails qui paraissent insignifiants. Des noms de personnes, des noms de lieux, la manière dont les draps étaient disposés dans le tombeau de Jésus après sa résurrection, ça paraît insignifiant. Mais ce sont là les marques caractéristiques du témoignage oculaire. Ce que des gens ont vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles. C'est tout sauf des mythes et des fables. Et si vous en doutez, je vous invite à découvrir pour vous-même. Menez votre propre enquête. Prenez un évangile, celui de Jean par exemple, et étudiez-le. Je serai heureux d'en discuter un peu plus après. Et si vous êtes vraiment motivé, je peux même vous recommander un livre que j'ai cherché, je n'ai pas réussi à le trouver, qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « Jesus and the Eyewitnesses »,« Jésus et les témoins oculaires », un gros pavé, mais qui est vraiment excellent. Venez m'en parler après, si ça vous intéresse. La lumière au bout du tunnel, donc, un fait et non pas une fable. Enfin, troisième point, la Bible, une lampe dans un lieu obscur. Mais attendez, vous êtes peut-être en train de vous dire, ça c'était Pierre, lui il a vu, nous on n'a rien vu. C'était plus facile pour lui de croire. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, c'est autre chose. Si on avait vécu au temps de Jésus, on aurait pu croire sans problème. Mais on est en 2015. On a juste ce vieux livre plein de noms imprononçables sur lequel s'appuyer. Est-ce que c'est vraiment assez? Les premiers destinataires de cette lettre se posaient sans doute la même question. Est-ce que c'est assez? Quand Pierre, Jean, Paul et les autres témoins directs de Jésus ne seront plus là, est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour tenir bon quand notre foi est attaquée, quand on ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel? Et en fait, pour eux, la situation était sans doute plus difficile, parce qu'ils n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament entre les mains. Alors, question. Qu'est-ce que vous choisiriez entre voir de vos propres yeux Jésus sur la montagne de la Transfiguration, rayonnant de splendeur, entend la voix de Dieu qui retentit comme du tonnerre, ou lire ma Bible. Laquelle des deux expériences vous donnerait les éléments les plus sûrs? Instinctivement, je pense qu'on opterait tous pour la première option. Voir Jésus et entendre la voix de Dieu versus un vieux livre. Mais Pierre voit les choses autrement. Regardez les versets 18 et 19. Pierre dit ceci, « Cette voix, la voix de Dieu, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec Jésus sur la Sainte Montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. » C'est totalement fou. La parole des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, plus sûre que d'entendre directement la voix de Dieu. Si on disait à Pierre, « J'aurais pu croire si seulement j'avais été là, avec toi sur la montagne », il répondrait, tiens, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux? On trouve la réponse au verset 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Avoir les écrits des prophètes et par extension toute la Bible, c'est encore mieux que d'entendre la voix de Dieu sur une montagne parce que tous ces auteurs étaient inspirés par Dieu. Ce sont les pensées même de Dieu qui nous communiquent. Leurs paroles sont ses paroles. Sur la montagne, Dieu a prononcé deux phrases, mais dans la Bible, il en a prononcé bien plus que ça. Et puis avec une voix qui sort de nuage, on peut se tromper. Il y a un épisode dans les évangiles, un des évangiles, où des gens entendent la voix de Dieu venir du ciel et ils croient que c'est un coup de tonnerre. Mais avec les Écritures, Dieu n'a pas laissé la place au doute. Pierre dit que les auteurs étaient poussés ou portés par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas le style personnel de chacun dans les différents livres, mais ça veut dire que ce qu'ils ont écrit, tout en reflétant la personnalité de chaque auteur, étaient les paroles de Dieu lui-même. Alors, on n'a pas besoin de faire un pèlerinage au fin fond de je ne sais où pour entendre la voix de Dieu. Pas besoin d'aller méditer pendant 5 heures à la lumière d'un cierge pour qu'il nous parle. Si vous avez une Bible, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et donc, l'encouragement de Pierre est très simple. Lisez-la. Lisez-la. Elle est l'élément clé de notre kit de survie. Pierre nous encourage à y prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et si vous ne l'avez jamais fait ou si vous voulez mener votre propre enquête sur la foi chrétienne, pourquoi pas prendre un de ces évangiles et le lire. Vous y découvrirez une lampe pour la vie, quelque chose qui explique notre monde. J'ai dit tout à l'heure qu'une de mes plus grandes peurs quand j'ai exploré les catacombes était de me trouver sans pile pour ma lampe torche. Vous imaginez le cauchemar seul, dans le noir, sous terre, sans ma maman. Et pourtant, combien de fois on essaie de naviguer dans le monde sans la lampe torche de la parole de Dieu? Le tunnel sera peut-être très long encore. Il sera souvent très obscur. Et bien des voix s'élèveront pour nous dire de renoncer, pour dire que la lumière au bout du tunnel n'arrivera jamais. Mais on a notre kit de survie. On a une lampe pour éclairer le chemin jusqu'au moment grand et glorieux où on verra enfin la lumière du jour. Le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la Bible, merci parce que c'est toi qui parles, merci parce que tu nous la donnes pour qu'on puisse te connaître. Je te prie que tu nous permettes de faire justement cela. Au nom de Jésus, amen. Sur vos feuilles, vous avez... Alors, déjà, allez vous resservir, il y a encore plein de brownies, que je n'ai pas encore goûté d'ailleurs. Et puis sur vos feuilles, vous trouverez des questions dont vous pouvez discuter maintenant. Et puis voilà, mais surtout, n'oubliez pas d'aller vous resservir.